Chapitre 17. 2 octobre 1998, 11h13. La rue Jean-Marie Jégot montait en pente raide, une cinquantaine de mètres de dénivelé jusqu'au sommet de la butte aux Cailles. Une jolie petite rue de carte postale qui donnait l'impression de grimper vers la place d'un village avec son église, sa mairie, son bar et son terrain de pétanque à l'ombre des platanes. En plein Paris. Marc savait vaguement que la butte aux Cailles restait l'un des derniers quartiers parisiens. Il était venu une fois prendre un pot ici un soir, au temps des cerises. Un étudiant bobo, du genre qu'il détestait, fils de diplomate ou quelque chose comme ça, lui avait expliqué que la butte était protégée des promoteurs à cause des carrières de calcaire souterraine qui rendaient impossible toute construction en hauteur. Marc avait simplement retenu qu'une maison dans ce quartier bourgeois coûtait une véritable fortune. Marc gravit un dernier escalier d'une vingtaine de marches et déboucha en haut de la butte. Tout en se tenant à la rampe, il attrapa son téléphone et envoya à nouveau un SMS à Lily. Le même. Il l'avait mémorisé. Lily, rappelle-moi, merde. Marc. Il vérifia par acquis de conscience, sans succès. Son répondeur demeurait désespérément vide. La rue de la butte aux Cailles était calme, à l'exception du va-et-vient autour de la boulangerie, apparemment le seul commerce actif de la rue. Pour le reste, il était trop tôt, les restaurants semblaient encore vides. Marc s'avança, leva les yeux vers les façades, puis marcha jusqu'au 21. Il découvrit une petite maison sur un seul niveau, posée au milieu d'un adorable jardinet d'une vingtaine de mètres carrés. Le genre de pavillon minuscule, ridicule dans n'importe quel coin de campagne de France. Mais là, situé au cœur de Paris, il devenait un incroyable produit de luxe. Une maison individuelle, sans étage, entourée d'un jardin. Même avec les 100 000 francs annuels versés par Mathilde de Carville, une telle maison semblait hors des moyens de grand-duc. Marc continua l'examen de la maison. Les volets vert clair étaient fermés. Il appuya à tout hasard sur la sonnette, entre la boîte aux lettres jaune un peu rouillée et la barrière écaillée. Personne. Il attendit une minute, sonna à nouveau, sans succès. Il se passa la main dans les cheveux, perplexe. Grand-Duc n'était pas chez lui, c'était à prévoir. Il jeta un coup d'œil plus approfondi sur la maison, le jardin, cherchant une idée. Il avança dans la rue. La solution s'imposa comme une évidence. Sur le côté droit de la maison, le coin d'un carreau d'une fenêtre était brisé. Avec de la chance, il pourrait passer le bras, saisir la poignée, ouvrir la fenêtre, entrer chez Grand-Duc. Marc tourna la tête. Personne ne faisait attention à lui dans la rue. Il n'hésita pas et sauta par-dessus le muret de pierre blanche pour se retrouver presque à l'abri des regards indiscrets près de la fenêtre. Il posa sa main sur le montant. Il n'eut pas besoin d'en faire plus. À sa grande surprise, la fenêtre s'ouvrit. Elle était simplement repoussée. Marc s'étonna un instant de cet étrange concours de circonstances favorables, de cette absence de prudence chez le détective privé. Un instant seulement. La seconde suivante, il se glissait dans la maison de Grand-Duc.
Le bâtard est chez Grand-Duc, pensa Malvina. Elle avait parfaitement vu dans le rétroviseur Marc Vitral s'avancer, sauter le muret de pierre. « Fait comme un rat », pensa encore Malvina. Il portait un sac à dos. À tous les coups, le cahier de Grand-Duc était dedans. Tout se présentait bien. Malvina essaya de bouger un peu, de décoller sa tête de la portière, d'étendre mieux ses jambes. Sa nuque lui faisait mal à force d'être tordue à la hauteur du volant, mais elle s'en fichait. Elle voulait bien rester là des heures et porter une minerve le reste de ses jours, si c'était pour coincer Vitral à la sortie, ouvrir ce putain de cahier, arracher une à une ces pages bourrées de mensonges, comme on arrache les ongles d'un type pour le faire parler. Doigt par doigt, tenir Vitral au bout de son flingue, le faire parler, lui aussi. Elle improviserait, elle inventerait, le moment venu, les règles d'un jeu délicieusement sadique.
L'odeur de cendre et de fumée prit immédiatement Marc à la gorge, comme si une cheminée avait fonctionné dans la maison pendant des heures sans que l'on ait aéré la pièce depuis. Marc toussa. Il se trouvait dans une petite remise, une sorte de débarras où étaient rangées des conserves et divers outils de jardinage ou de bricolage. Il poussa la porte, monta trois marches de béton, ouvrit une seconde porte. Elle donnait directement dans ce qui devait être le salon de Grand-Duc. L'odeur de fumée se fit immédiatement plus intense. Marc toussa encore. Son regard fut attiré vers la grande cheminée, juste en face de lui. Une évidence s'imposait. On avait brûlé dans ce foyer des kilos de papier. Il observa les boîtes archives vides sur le parquet. Grand-Duc avait visiblement fait le ménage, et récemment. Avant que Marc ait eu le temps d'analyser davantage la situation, un bruit étrange lui glaça l'échine. Juste derrière lui, sur sa droite, une sorte de claquement sourd produit par une succession de courtes secousses, comme le mécanisme grippé d'un jouet mécanique. Marc se retourna aux aguets. Il découvrit avec stupeur l'immense vivarium dans lequel presque toutes les libellules gisaient sur le sol humide, inerte. Il s'approcha. Seule la plus grande, au thorax rouge et doré, voletait encore, péniblement. Comme si elle avait repéré une nouvelle présence dans la pièce, un secours possible, elle agitait faiblement ses ailes, les cognant aux parois de verre. Marc resta quelques instants sans réaction, fasciné par les mouvements désespérés de la libellule. Une libellule, prisonnière, presque morte déjà, comme cette dizaine d'autres insectes. Sans plus réfléchir, Marc s'avança, saisit de ses deux mains le couvercle de verre qui fermait le vivarium. Il était assez lourd, mais n'était que posé. Marc le souleva sans difficulté et le plaça contre le mur le plus proche. Immédiatement sensible à l'air frais, en quelques battements d'ailes, la libellule harlequin s'évada. Marc suivit des yeux son vol, d'abord un peu hésitant, puis rapidement majestueux. La libellule s'éleva un long moment dans la pièce avant de se poser sur le lustre du salon. Le cœur de Marc s'emballa, stupidement. Il éprouvait une joie intense, presque puérile, d'avoir sauvé l'insecte rouge, sa libellule. Jamais il n'aurait imaginé que crédule Grand-Duc les collectionnait. Et pourquoi ? Pourquoi alors les avoir laissés ainsi agoniser ? Marc inspecta plus en détail le bureau de Grand-Duc. Tout était impeccablement rangé, les crayons, le bloc-notes, la curieuse petite bouteille de vin, vide, le verre. Il y avait dans ce décor quelque chose d'étrange. Tout laissait croire que Grand-Duc avait voulu solder, avec ordre, tout ce qui touchait à cette affaire pour laquelle il avait été engagé. Les archives brûlées, les insectes sacrifiés, son testament aussi, ce cahier vert qu'il portait dans son sac, que Grand-Duc avait terminé de rédiger la nuit des 18 ans de Lily et qui lui avait ensuite offert. La fin d'une vie pour Grand-Duc, méticuleusement organisée. Que s'était-il passé alors ? Pourquoi Grand-Duc n'était-il pas là ? Marc ressentait dans cette maison une étrange impression d'urgence, de départ en catastrophe. Cette bouteille non rangée, par exemple, cette vitre brisée, cette fenêtre simplement repoussée. Cette odeur aussi, pas celle de la fumée de cheminée, une autre, insidieusement dissimulée sous la première. Quelque chose ne collait pas. Le visage de Marc s'éclaira soudain. Il s'installa sur la chaise du bureau de Grand-Duc, ouvrit son sac à dos, sortit le cahier vert, fit tourner les feuilles pour s'arrêter sur la dernière page noircie par l'écriture de Grand-Duc. C'était si simple, au fond, de connaître les ultimes pensées de Grand-Duc. Il suffisait de lire les derniers mots de sa confession, comme un roman policier si agaçant qu'on ne résiste pas à l'envie de sauter des pages pour lire la fin, avec un léger sentiment de tricherie, vite oublié. Marc se concentra. La dernière page du cahier de Grand-Duc ne contenait qu'une vingtaine de lignes. L'écriture du détective était comme toujours fine, régulière. Voilà, tout est dit. Nous sommes le 29 septembre 1998. Il est minuit moins 20. Tout est en place. Tout est terminé. Lily va atteindre ses 18 ans dans quelques minutes. Je vais ranger mon stylo dans ce pot, en face de moi. Je vais m'installer derrière ce bureau, déplier l'Est républicain du 23 décembre 1980, le journal de ce jour maudit, et calmement je vais me tirer une balle dans la tête. Mon sang se mêlera au papier jauni de ce journal. J'ai échoué. Je laisse simplement ce testament derrière moi, pour Lily, pour qui voudra. J'ai recensé dans ce cahier tous les indices, toutes les pistes, toutes les hypothèses. 18 ans d'enquête. Tout est consigné dans cette centaine de pages. Si vous les avez lues avec attention, vous en savez autant que moi. Peut-être serez-vous plus perspicace. Peut-être suivrez-vous une direction que j'ai négligée. Peut-être trouverez-vous la clé, s'il en existe une. Peut-être. Pourquoi pas? Pour moi, c'est terminé. Dire que je n'ai ni regret ni remords serait exagéré. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Marc relut lentement la dernière ligne. J'ai fait du mieux que je pouvais. Il resta un instant figé, cherchant à contrôler le sentiment intense de malaise qui montait en lui, puis remonta le fil de l'encre noire sur quelques dizaines de mots. Je vais me tirer une balle dans la tête. Mon sang se mêlera au papier jauni de ce journal. J'ai échoué. Marc releva les yeux. Grand-Duc parlait de son suicide, programmé. Pourquoi alors n'y avait-il aucune trace de sang sur le bureau? Pas de journal, pas d'armes. Grand-Duc avait donc renoncé à son suicide 2 jours auparavant, entre 23h40 et minuit. Pourquoi? Pourquoi tout préparer aussi précisément pour renoncer au dernier moment? Grand-Duc avait-il manqué de courage, tout simplement? Ou bien était-il allé se tirer une balle dans la tête autre part, plus tard? Ou bien avait-il menti dans ce journal? Sur son sacrifice, sur le reste? Ou bien... Scénario fou, avait-il découvert quelque chose avant minuit? Une lueur, une idée, une dernière piste? Marc relut longuement les dernières lignes du journal. Grand-Duc ne laissait aucun indice. Une seule certitude, il n'était pas mort une balle dans la tête sur son bureau. Marc referma le cahier et toussa encore. Il sentait toujours cette odeur insupportable, de plus en plus tenace. Un nouveau bruit mécanique, plus intense que précédemment, lui fit tourner la tête. Une petite dizaine de libellules, libérées de leur plafond de verre, sauvées par l'air frais, volaient dans le salon. Des vols brefs, encore malhabiles. D'une étagère à l'autre, d'une chaise à la table, d'un rideau à la tringle. Pas plus mortes que cela. Des bestioles sacrément plus résistantes qu'on ne pouvait le croire. Marc sourit. Ses pensées s'envolèrent vers Lily, sa libellule, la seule qu'il voulait vraiment sauver, à l'inverse, s'il le fallait, en refermant sur elle un couvercle de verre. Marc sentait que ses pensées s'embrouillaient. Ces insectes voltigeants tournaient devant ses yeux comme les mouches irréelles qui précèdent un vertige. Il se leva, il fallait qu'il bouge. Nom de Dieu, d'où venait cette odeur? Il avança, marcha quelques pas. Plus il approchait de la cuisine, plus elle semblait forte. La cuisine était propre, rangée, en ordre jusqu'aux poubelles vidées. Mais l'odeur, sans aucun doute, sortait de ce placard haut et étroit, à côté de l'évier. Marc ouvrit la porte, lentement. Le cadavre tomba à ses pieds, presque instantanément, dans un bruit sourd. Déjà rigide, comme un mannequin de cire. Marc recula, stupéfait, blême, horrifié. Le corps gisait devant lui. Une tache sombre, rouge, maculait sa chemise. Crédule Grand-Duc. Mort, comme annoncé dans son journal. Sauf qu'il arrive rarement qu'un type qui se tire une balle dans le cœur prenne ensuite le temps de dissimuler son arme, de nettoyer le sang versé et de s'enfermer dans un placard. Marc fit un autre pas en arrière. Crédule Grand-Duc ne s'était pas suicidé. Il avait été assassiné.